ce sont des têtes qui sont essentiellement des têtes de noirs. Le fait d'être noir aux États-Unis n'est pas du tout insignifiant, mais il dépasse ce fait-là pour transcender toutes les minorités qui ont composé en fait les États-Unis et qui sont tellement présentes dans une ville comme New York.
Je faisais un parallèle tout à l'heure en regardant toutes ces toiles avec l'univers du rap, du hip-hop, qui est quelque chose qui est très présent à New York depuis ces 20 dernières années et qui s'est développé au moment où Basquiat peignait le plus. Il y a des correspondances entre ces univers-là, justement l'assemblage d'éléments très disparates.
Oui, c'est vrai. En plus, Basquiat s'intéressait beaucoup à la musique. Il en écoutait beaucoup. Bon, il écoutait beaucoup de Jimi Hendrix. On sait qu'il peignait en écoutant en permanence de la musique, il jouait lui-même de la musique, il faisait partie d'un groupe à un moment donné où il jouait de la clarinette. Basquiat avait un côté surdoué, c'est-à-dire qu'il était bon en musique, bon en peinture, c'est quelqu'un qui écrivait, qui avait une culture générale, donc, et ce côté surdoué dans différents domaines s'est retranscrit à un moment donné dans ses toiles. Son œuvre aussi se caractérise par le fait que c'est un amalgame de tout un tas d'éléments de culture qui sont tellement présents aussi dans cette société américaine et en particulier dans New York et dans le New York des années 80.
L'expo Basquiat, c'est jusqu'au 23 octobre au musée Mayol, fondation Dina Vierny à Paris. Vous pourrez y découvrir une soixantaine d'œuvres. La mort d'un grand producteur du cinéma d'auteur, Serge Silberman, s'est éteint hier soir à l'âge de 86 ans. On lui doit notamment Bob le Flambeur de Melville, Le Charme discret de la bourgeoisie de Buñuel ou encore Ran de Kurosawa. Il est 13h33, dans un instant la météo. Je vous retrouve à 19h.
C'était le journal de Franck Matevon et tout de suite donc des nouvelles du temps avec Joël Collado de Météo France.
La météo avec Daikin, climatisation et chauffage pour le résidentiel, le tertiaire et l'industrie.
Tout au plus quelques gouttes à l'ouest, cet après-midi de la pointe de la Bretagne à la Vendée, la Normandie, le vent de sud-ouest modéré sur les plages s'accompagnera d'un ciel souvent bien nuageux. Ces nuages associés à une perturbation peu active donneront très peu de pluie. Ces pluies éparses, ces petites averses qui en fin de matinée touchaient le Finistère mais également la région de Rennes, gagneront au fil de l'après-midi l'Anjou, le Maine, le Cotentin. À l'avant de cette légère dégradation, des Charentes aux Flandres, sur l'île de France, les passages nuageux de plus en plus nombreux n'altéreront pas trop l'impression de beau temps cet après-midi. Sur le sud-ouest, le centre, en Rhône-Alpes, sur le nord-est, excepté sur la côte basque où les nuages bas venus de la mer resteront tenaces, le soleil dans une ambiance lourde l'emportera. À partir du milieu de l'après-midi, sur la plupart des massifs montagneux, une tendance orageuse se développera. Ces orages isolés sur les Alpes du Nord, sur le Jura, les Vosges, localement forts sur le massif central, deviendront en soirée plus fréquents sur la chaîne des Pyrénées. Près de la Méditerranée, sous un soleil rayonnant, la chaleur restera encore caniculaire cet après-midi. Les températures encore voisines de 36 à 37 degrés sur la Provence ne dépasseront pas 20 degrés sous les nuages sur la pointe du Finistère. Elles atteindront 28 degrés à Paris, 30 degrés en général sur la partie centrale de la France. Demain, sous un ciel encombré de nuages, porteur d'un peu de pluie sur le nord et le nord-est du pays, il fera partout un peu moins chaud qu'aujourd'hui.
Consultez la météo du jour et les prévisions sur 7 jours, département par département, par téléphone au 0892 68 10 33 ou sur Minitel 36 15 France Inter, 34 centimes d'euros la minute.
France Inter, 13h34, vous retrouvez maintenant Patrice Gélinet dans une nouvelle diffusion de 2000 ans d'histoire.
Bonjour, aujourd'hui Alexandre Dumas, la rediffusion d'une émission enregistrée le 28 novembre 2002, la veille du transfert des cendres de Dumas au Panthéon.
Il n'y a pas de ténèbres dans l'œuvre d'Alexandre Dumas. Partout le rayonnement, partout le plein midi, partout la pénétration de la clarté. Victor Hugo.
Mille ans d'histoire. Deux siècles après sa naissance, le 24 juillet 1802, Alexandre Dumas entrera donc demain au Panthéon pour y rejoindre les cendres de Rousseau, de Victor Hugo et d'Émile Zola. C'est dire l'importance que la République accorde tardivement à un des écrivains les plus féconds de la littérature française. Auteur de 300 titres, père de plus de 5000 personnages, Dumas a connu de son vivant un tel succès que sa renommée a très vite dépassé les frontières en faisant de lui l'écrivain français le plus connu à l'étranger. Plus connu peut-être qu'en France où il est considéré encore aujourd'hui comme un auteur mineur, indigne de figurer dans les manuels scolaires est tout juste bon à distraire les adolescents en leur parlant de valeurs aussi démodées, dit-on, que l'amitié, le courage, la fidélité ou l'honneur. Celles que partagent pourtant les héros les plus célèbres d'Alexandre Dumas, les quatre mousquetaires.
Permettez-moi de vous présenter mes excuses à tous les trois.
Tiens.
En effet, vous avez le droit de me tuer le premier, monsieur Athos. Ce qui diminue beaucoup vos chances de le faire, monsieur Porthos, et ce qui rend les vôtres à peu près nuls, monsieur Aramis.
Alors, les gardes du cardinal. Bon, le cardinal, bon, le roi.
Vous m'avez sauvé la vie, d'Artagnan, je n'oublierai pas. Nous étions trois, maintenant nous serons quatre.
Un pour tous.
Tous.
Gottschalk, bonjour.
Bonjour. Bah,
vous êtes probablement le plus grand spécialiste d'Alexandre Dumas, auteur d'une importante biographie de l'auteur des Trois Mousquetaires, mais aussi d'une quantité d'autres personnages. Le comte de Monte Cristo, la reine Margot, enfin des personnages qui sont finalement beaucoup plus connus que celui qui les a imaginés. Quand on lit votre livre, on se rend compte que le personnage le moins connu de l'œuvre de Dumas, c'est Dumas lui-même, alors qu'il a une vie aussi mouvementée que ses héros.
En beaucoup plus, parce qu'elle a duré plus longtemps et qu'il a voulu vivre jusqu'à la fin. C'est un être flamboyant, absolument. C'est un être aussi qui est vraiment un personnage. C'est-à-dire que dès le moment où il a connu le triomphe, du jour au lendemain, un soir de représentation théâtrale, inconnu la veille, célèbre le lendemain, il s'est presque forgé un personnage. Je veux dire qu'il a été obligé d'être Alexandre Dumas, et le vrai Dumas est au-dessous de ce faux Dumas, personnage truculent, personnage que l'on connaît mal, et même physiquement, le Dumas que l'on connaît nous maintenant, c'est un Dumas après la mention de la photographie, c'est-à-dire vieilli. Or, le jeune Dumas ne ressemblait pas du tout au vieux Dumas, c'était un grand chat maigre aux yeux admirables qui a véritablement conquis Paris, et pas seulement le théâtre, mais conquis le monde parisien.
Et un personnage très marqué par quelqu'un qu'on connaît encore moins que lui, qui est son père, le général Dumas, qui a beaucoup compté pour lui.
Oui, son père, fils d'esclaves et d'un aristocrate normand, mélange improbable dû aux colonies, et aussi général. Là aussi, c'était improbable qu'un métis devienne général, devenu général parce que tous les aristocrates cadres de l'armée étant partis, la révolution nommait les généraux très rapidement.
En disgrâce à cause de Napoléon. Et alors à sa mort, c'est dire l'importance qu'il avait pour Alexandre Dumas, le père, le général Dumas. À sa mort, il y a une scène extraordinaire que vous racontez, Claude Chop.
Oui, c'est Dumas dans ses mémoires qui raconte cela. On lui dit, le bon Dieu a rappelé papa à lui, on dit ça. Et Dumas prend une arme, monte quelques escaliers pour aller au plus loin vers le ciel et pour pointer son arme en disant, mais que vas-tu faire, malheureux enfant, lui dit sa mère. Et Dumas répond, je vais tuer Dieu qui a tué papa.
Oui. C'est D'Artagnan, en fait.
D'Artagnan, déjà. Et il faut dire que Dumas va garder de son père. Le père est mort lorsqu'il avait 4 ans. Une image totalement radieuse de beauté physique, une sorte de dieu sur terre, puisque le souvenir le plus fort qu'il ait de son père, c'est lorsque son père sauve de la noyade 3 jeunes gens au petit château des Fossés qu'ils habitaient. Et sauver les hommes, c'est presque créer les hommes.
En tout cas, son père, il l'a plus imaginé que connu, puisqu'il avait 4 ans quand son père est mort, Alexandre Dumas avait que 4 ans. Et alors, autre chose étonnante, cet homme que l'on connaît surtout pour ses grands romans, et les Trois Mousquetaires, le Comte de Monte Cristo, c'est quelqu'un dont les 13 premières années de sa vie littéraire ont été consacrées, non pas au roman, mais au théâtre, Claude Chop.
Oui, mais c'est très simple. Je dirais par là que en 1825-28, lorsqu'il commence sa carrière, le théâtre est la seule carrière glorieuse qu'il puisse envisager. Le roman n'existe pratiquement pas, comme le roman est une amusette. C'est le théâtre qui donne la gloire. Et qu'est-ce qui est venu chercher Dumas à Paris? Comme tous les Rastignacs de Port-Rovin, c'est la gloire. Et la gloire, c'est la Comédie Française qui donne cette gloire. Et c'est pourquoi il va essentiellement aller vers le théâtre, et sentant véritablement ce qui se passait à Paris, c'est-à-dire une révolution, plus de néoclassicisme soutenu par quelques vieillards valétudinaires, c'est-à-dire les grands-pères, puisque les pères étaient morts sur les champs de bataille, c'est les grands-pères, c'était la littérature des grands-pères qui existait. Et donc, il va choisir, bien sûr, la nouveauté, le modernisme, le romantisme, et il va avoir la chance, parce qu'il a la hardiesse, d'être le premier romantique à paraître sur le théâtre français, avant Hugo, avant Hernani, Henri III et sa cour, 10 février 1829, date essentielle, et les manuels l'oublient, du romantisme.
Un roman, donc, une pièce de théâtre, donc Henri III et sa cour, une pièce de théâtre historique, la première pièce de théâtre par laquelle il est reconnu. On lui permet de jouer cette pièce à la Comédie française, alors qu'il est républicain et que nous sommes sous la Restauration, sous Charles X.
Oui, enfin, il faut être clair. Est-ce qu'il s'est affirmé républicain à ce moment-là? C'est pas d'une évidence parfaite. Il appartient, on le sait, au grand courant libéral, puisqu'il est employé du duc d'Orléans. Et le duc d'Orléans fait de l'opposition à ce moment-là. Donc, il n'est pas encore, il ne s'affirme pas encore comme républicain. Mais il est évident que sa façon de traiter l'histoire, de traiter les rois, qui sont des marionnettes dans sa pièce, pourrait passer que pour un sentiment républicain.
En tout cas, ce qu'il reconnaît, c'est qu'il est romantique, qu'il fait partie de ces écrivains de 20 à 30 ans, avec Hugo, avec Gautier, avec Nerval, avec Balzac, avec Vigny, qui sont des romantiques qui veulent rompre avec le passé.
Oui, enfin, et surtout, il faut, là, on est toujours dans cette politique de conquête. Il y a trois hommes qui font la conquête, c'est Hugo, Dumas, Vigny. Ils sont une espèce de préfiguration des trois mousquetaires, hein. Ce sont les trois mousquetaires du romantisme. Et ils vont véritablement développer une stratégie de mousquetaires. C'est-à-dire qu'ils vont se soutenir les uns les autres pendant 4 ans d'une façon outrancière. D'où le rôle important de Dumas à la bataille d'Hernani. C'est à la fois une stratégie. Autant que de l'amitié, puisque Dumas a connu Hugo lors de la première d'Henri III et sa cour.
À bataille d'Hernani, c'était le 25 février 1830, Dumas en tête des romantiques, envahissant la Comédie française pour y défendre la pièce de Hugo. Hernani, l'occasion donc de cette célèbre bataille littéraire entre les classiques et les romantiques, à la tête desquels se trouvait Alexandre Dumas.
Voilà, ce sont nos billets. Au moins, on ne pourra pas les contrefaire.
Les billets sont remarqués du mot hierro, qui signifie fer en espagnol, dur comme le fer.
Le fer d'une épée.
Hugo propose que nous nous divisions en tribus.
Les amis,
ma parle.
Je vous rappelle que nous sommes ici en ce 25 février 1830, date historique, dans un but précis. Nous sommes les défenseurs de la liberté, les hors-la-loi de l'esprit, les chevaliers de l'avenir. Yeah. Pour anéantir les débris gangrénés de l'ancien monde qui voudraient imposer leurs lois d'outre-tombe à toutes les forces nouvelles qui se lèvent.
Non, c'était un autre extrait du téléfilm de Jean-Daniel Verrègue, La bataille d'Hernani. Il a joué donc un rôle essentiel, Dumas, là-dedans. C'est vraiment quelqu'un, c'était un écrivain engagé, et engagé aussi politiquement. La bataille d'Hernani, c'est en février 1830, quelques semaines plus tard, Dumas est sur les barricades contre le roi Charles X.
Oui, enfin, la scène est bien connue. Hein. Il est au courant qu'il y a un mouvement à Paris, et il demande à son valet de chambre, Joseph, on fusille à deux coups, et avec le courage physique qu'il caractérise, qu'il tient de son enfant de chasseur dans la forêt de Villers-Cotterêts, il descend dans la rue et très vite, sa haute taille, son exubérance en font un petit chef de groupe, il le dit très bien, et il y a un moment admirable, et il faut se replacer dans le temps, il y a un moment admirable dans les mémoires où il s'appuie sur un parapet, il regarde vers Notre-Dame et il voit le drapeau tricolore. Et là, c'est un moment de larmes aux yeux, c'est tout l'épopée de son père qui lui revient et cet admirable drapeau tricolore qui indique la République. Ça ne durera pas longtemps. Mais si on lit bien les mémoires du temps, on s'aperçoit que c'est le seul écrivain majeur à avoir parcouru les rues et combattu dans les rangs du prolétariat, avec bien sûr comme autre artiste David Anger. C'est les deux seuls que je connaisse qui ont véritablement fait le coup de feu en 1830.
Et nous sommes sous la monarchie de Juillet, c'est pas encore la République. Claude Chope, il continue d'écrire. Il y a une pièce qui aura peut-être plus d'importance encore que Henri III, c'est Antony.
Oui, Antony, parce que c'est la première fois que le monde contemporain est mis sur la scène, c'est-à-dire ce sont des gens en habit, et c'est une pièce profondément révolutionnaire socialement dans l'esprit, puisque c'est l'histoire d'un bâtard, et On sait que Dumas n'est pas bâtard réellement, mais socialement et je dirais presque racialement, c'est un bâtard. Et c'est un bâtard qui va entraîner une femme, qui va d'abord essayer de s'intégrer par les femmes et qui, à la fin, va vers l'échafaud avec la très belle dernière scène où il poignarde Adèle pour lui éviter d'être déshonoré, et quand on entre dans la pièce, il dit « Elle me résistait, je l'ai assassinée, donc l'honneur d'Adèle est sauvé. » Donc c'est une très belle pièce qui a marqué jusqu'à Flaubert. Hein, le Adesso et Sempre, qui est la devise d'Antony, va être aussi reprise dans ses lettres par Flaubert.
Alors il écrit des pièces de théâtre, il écrit aussi des récits de voyage, il voyage énormément à cette époque-là aussi, Claude Chabrol.
Il fuit énormément. Je pense que son premier voyage, il le fait vers la Suisse. Pourquoi la Suisse? Parce que c'est une république. Et que lui est mêlé à ce moment-là au complot républicain. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une fuite, on pense qu'il a été pris, on dit qu'il a été fusillé à ce moment-là, puisqu'il a participé aux émeutes qui ont suivi les obsèques du général Lamarque. Donc, il voyage beaucoup. Alors, qu'est-ce que voyager? Très souvent pour lui, c'est une façon de retrouver, dit-il, la terre. C'est le mythe d'Anté joue un grand rôle chez lui. Vous savez, Anté qui ne retrouvait de force que lorsqu'il touchait la terre. Et à chaque fois qu'il a besoin de retoucher la terre, le réel, il quitte la popularité parisienne, le chaudron parisien, comme il dit, pour aller à l'étranger retrouver de l'énergie.
Alors, voyage dans la géographie, voyage aussi sentimentaux. Hein. C'était un bourreau des cœurs, Alexandre Dumas.
Bah justement, la photographie, on a du mal à comprendre comment ce gros bonhomme était un bourreau des cœurs. Or, en fait, dès que je vous ai dit qu'il était très séduisant, en plus, il y avait une certaine prime à l'exotisme. Son aspect un peu étrange, son sang qu'on supposait africain, lui attirait effectivement de conquête. Bon, il faut dire aussi que Dumas avait la conquête pas très regardante, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a triomphé au théâtre, les coulisses ont été son harem, et donc il a multiplié les conquêtes d'actrices, et si on imagine bien, les conquêtes d'actrices, c'est une chose assez merveilleuse, puisque les actrices, à la limite, je dirais, ne sont pas des femmes, elles sont 1000 femmes à la fois. Donc on doit multiplier le nombre de ses maîtresses par tous les rôles que les maîtresses ont joués, donc il était à la tête de quelque chose d'admirable. Aucun pacha n'a eu le harem d'Alexandre Dumas.
Il en a épousé une quand même.
Oui, mais pour s'en débarrasser.
Alors, Claude Chope, il écrit donc des récits de voyage, il voyage de maîtresse en maîtresse. Il écrit aussi, pour Berlioz, un texte peu connu, La belle Isabeau, chanté ici par Françoise Paulet.
France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, Alexandre Dumas.
C'était La belle Isabeau, un texte d'Alexandre Dumas, mis en musique par Berlioz en 1943. Il écrivait beaucoup
de paroles de romance. Il en a écrit, j'en ai retrouvé une trentaine. Et aussi, on oublie, et j'ai peur que justement demain, on ne joue pas ça à l'occasion de son entrée au Panthéon. En 48, le chant le plus populaire avec la Marseillaise, ça a été Mourir pour la patrie. C'est le sort le plus beau, le plus digne d'envie qu'il avait écrit pour le Chevalier de Maison Rouge qui était donné sur le théâtre historique. Donc, je suis tout triste qu'on n'ait pas pensé à ressortir ce grand chant national.
En tout cas, on vient d'entendre donc la belle Isabeau. C'était en 1843. Dumas avait 41 ans et il n'avait pas encore écrit les deux romans les plus connus de son œuvre, Les Trois Mousquetaires et puis l'histoire de ce prisonnier évadé du château d'If pour se venger des responsables de son malheur.
Qui êtes-vous ?
Edmond Dantès.
Pourquoi êtes-vous ici?
On a dit que j'étais bonapartiste.
Depuis combien de temps êtes-vous ici?
Je n'en sais rien. J'ai été emprisonné le 28 février 1815. Je te promets à toi, Edmond Dantès. Emprisonné au commencement de sa vie, banni du monde pendant 14 années. Je te promets à toi, Edmond Dantès, que tu sauras prendre ta revanche.
J'ai l'honneur de vous présenter le comte de Monte Cristo. Le comte de Monte Cristo.
Très cher comte, soyez le bienvenu chez moi.
Alors, le comte de Monte Cristo, Claude Chope, Les Trois Mousquetaires ont été écrits la même année, en 1844, un tournant dans la vie de Dumas, dans son œuvre, un triomphe aussi. Comment est-ce qu'on peut expliquer le succès immédiatement qu'ont connu ces deux œuvres?
Alors, il faut d'abord remonter un petit peu en arrière, dire que c'est l'écriture du roman et du roman feuilleton, c'est-à-dire ce n'est pas un genre, le roman feuilleton, c'est une possibilité que les journaux offrent aux écrivains d'écrire jour à jour un roman. Bon, il faut dire que ça s'appuie sur un échec, c'est parce que Dumas n'a pas été reçu à l'Académie française qu'il va écrire des romans, parce que le roman feuilleton exclut de l'établissement littéraire. Ah bon? C'est-à-dire, il se grille en quelque sorte, il ne sera plus de l'Académie française à partir du moment où il donne dans un genre populaire qu'on soupçonne aussi d'être industriel. Bon, il est évident que Dumas n'est pas très favorable au départ au roman feuilleton. Il n'aime pas le roman feuilleton, il trouve que c'est trop morcelé l'œuvre, il préfère les revues, puisque la tradition était la publication des romans en revue, la revue des Deux Mondes entre autres. Là, il accepte parce que Eugène Sue vient d'avoir un succès prodigieux, un succès financier prodigieux avec Les Mystères de Paris, et il va lui aussi chercher à obtenir un grand succès. Mais il va chercher d'abord dans tous les genres, et c'est grâce, bien sûr, à l'arrivée auprès de lui d'un jeune homme qui s'appelait Maquet, jeune professeur d'histoire, qu'il va travailler de confiance avec lui et ils vont écrire en 10 ans l'œuvre la plus prodigieuse qui soit. Alors, ce problème du nègre est un problème qui me paraît totalement surévalué, on pourra en parler, mais il est bien évident que lorsque Maquet rencontre Dumas, ou Dumas-Maquet, parce que c'est Maquet le solliciteur, il est bien évident que Maquet va écrire du Dumas, parce que celui qui a un style, c'est Dumas, c'est pas Maquet. Donc, Maquet va écrire du pré-Dumas, et Dumas va multiplier par 3, par 4, ce que Maquet écrit.
Il fait la documentation, Maquet, en fait, essentiellement, et la trame aussi des
plus que
des
ça.
Romans.
Non, la trame se fait à deux. Et Maquet écrit une première version et Dumas complète la première version.
En tout cas, c'est ce qui explique la critique d'un certain Mirecourt, hein, qui disait en parlant de Dumas, fabrique de romans, Alexandre Dumas et compagnie, Eugène de Mirecourt, que l'on retrouve dans ses portraits de Dumas par ses contemporains, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Mais ce qui frappe tous ceux qui l'ont connu, c'est cette formidable énergie. Vous êtes plus qu'un grand écrivain, lui déclare Michelet, vous êtes une des grandes forces de la nature. Alors, physiquement d'abord, hein, Dumas plaît aux dames. Sa taille était superbe, raconte la comtesse d'Ache, qui se souvient de lui en 1830, hein, c'était avant qu'il soit énorme. Il était grand, dit-elle, il avait de jolies jambes qu'il montrait volontiers. Avec cela, de très beaux yeux bleus, couleur de saphir, dont ils avaient l'éclat lorsque son intelligence les animait. Et Dumas, hein, alors que les romantiques ne rêvent que phtisie et mine maladive, et lui, il a du mal à cacher sa vraie nature. Le poète Théodore de Banville raconte qu'il adorait aller au bal masqué. Là, dit-il, costumé en postillon, Dumas dansait toute la nuit sans se reposer une minute, et même portait des femmes à bras tendus comme un Hercule de foire. Il aime donc faire la fête et aussi dépenser sans compter. Il s'habille avec un excès d'éclat, raconte avec un peu de mépris un autre contemporain, abuse de la chaîne en or, donne des dîners de sardanapale, crève une grande quantité de chevaux et aime un grand nombre de femmes. Ce personnage volcanique impressionne les journalistes. Voilà comment, par exemple, la Revue des Deux Mondes le présente en 1834. Monsieur Dumas est léger même dans ses plus fougueuses ardeurs. Son sang est une lave et sa pensée une étincelle, aussi aimable par ses défauts que par ses qualités, plus séduisant par ses vices que par ses vertus. Voilà Monsieur Dumas tel qu'on l'aime. Alors, Dumas est aimé aussi par ses amis écrivains, fasciné par l'énergie vitale, justement, que Dumas dépense aussi sans compter dans la littérature. littérature. Lui, explique George Sand, lui qui porte un monde d'événements, de héros, de traîtres, de magiciens, d'aventuriers, lui qui est le drame en personne, il lui a fallu des excès de vie pour renouveler sans cesse un énorme foyer de vie. Et pour Victor Hugo, son vieil ami, l'œuvre de Dumas est éclatante, innombrable, multiple, éblouissante. Mais Dumas a aussi des ennemis, vous le citiez tout à l'heure, Patrice. En 1845, Eugène de Mirecourt s'attaque violemment à sa personne. « Grattez l'écorce de Monsieur Dumas, dit-il, et vous trouverez le sauvage. Lèvres saillantes, nez africain, tête crépue, visage bronzé, il tient du nègre et du marquis tout ensemble. Lorsqu'il descend dans une auberge, il jure, tempête, courtise des filles de service, déjeune de pommes de terre brûlantes, qu'il dévore sans ôter la peau, nègre. Comme ses chefs de tribus indiennes, Monsieur Dumas aime tout ce qui brille, les fanfreluches lui tournent le cerveau, nègre. »
Quel racisme, ce Mirecourt.
Un racisme épouvantable, qui d'ailleurs, est un peu exagéré, mais qui est quand même le texte essentiel de la plupart des critiques que l'on fait sur Dumas. Hein. Dumas est un nègre avec, il ne sait pas se tenir en société parce que c'est un sauvage.
Cela dit, d'autres l'apprécient beaucoup, reconnaissent son tempérament extraordinaire, son énergie, c'est fabuleux l'énergie de Dumas.
Oui, enfin c'est un personnage, il dit « je suis le mouvement ». C'est un mouvement perpétuel, et ce qui le guide, c'est sa fantaisie, son désir.
Bon vivant, qui va se ruiner d'ailleurs en fête, etc. Évidemment, il a pas tiré grand profit de la fortune qu'aurait pu lui apporter ses œuvres.
Oh non, à vrai dire, si quand même. Je veux dire qu'il a une vie tellement extraordinaire que ça valait bien. Le moment de partir pour l'Orient, il dit, ça valait bien la peine de travailler comme un fou pour aller vers l'Orient. En fait, son désir est toujours satisfait.
Alors, il est mort en 1870. Demain, ses cendres partiront donc au Panthéon, un hommage qui est un peu tardif. Moi, je suis frappé de constater qu'au fond, il a été méprisé assez longtemps par un certain nombre d'écrivains. Il figure même pas dans le Lagardère-Bichard, par exemple.
Oui, toujours cette même séparation d'une France en deux. D'un côté, les critiques qui ne reconnaissent pas l'écrivain parce qu'ils n'ont jamais écrit, et d'autre part, les créateurs qui ont généralement eu pour Dumas infiniment de respect. En fait, il suffit de voir, et surtout, je dirais, les créateurs étrangers. Il suffit de voir, par exemple, en Amérique du Sud, d'où viennent tant de grands écrivains. La plupart des grands écrivains actuels sont des admirateurs de Dumas. Je citerai Garcia Marquez, par exemple, ou Carlos Fuentes. Ce sont des gens qui aiment Dumas, qui apprécient Dumas, qui sont entrés en littérature par Dumas.
Merci Claude Chope. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre biographie d'Alexandre Dumas, rééditée chez Fayard. Et vous êtes également à l'origine d'une anthologie de textes sur Dumas, Alexandre Dumas en bras de chemise, édité par Maisonneuve et La Rose. Beaucoup d'autres livres, bien sûr, sur Alexandre Dumas. Alexandre Dumas ou les aventures d'un romancier, de Christian Bier, Jean-Paul Brighelli et Jean-Luc Rispaille. Un excellent volume de la collection Découverte chez Gallimard. La grande vie d'Alexandre Dumas, un beau livre édité chez Minerva avec un texte de Gonzague Saint-Brie et les recettes de l'auteur des Trois Mousquetaires, revu par Alain Ducasse. Enfin, plusieurs textes d'Alexandre Dumas ont été réédités. Ainsi, Mes mémoires en deux volumes chez Robert Laffont dans la collection Bouquins, avec une préface de vous, Claude Chope. Et puis Le collier de la reine, disponible chez Folio Classique. Enfin, Pauline, l'un des premiers romans de Dumas, chez Folio Classique également. Vous avez pu entendre des extraits du Comte de Monte Cristo, un film de David Green, Les Trois Mousquetaires de Bernard Bordery, et enfin La Bataille d'Hernani, un téléfilm de Jean-Daniel Véreg. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements, et il y en avait beaucoup, en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Lydouine Caron et Olivier Daligo. Documentation Virginie Bloch-Lenné et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Comilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Et demain dans 2000 ans d'histoire, au programme Guillaume Apollinaire, vous écoutez France Inter, il est 14h.